peu ce qui se dit et qui sait séparer le bon grain de l'ivraie. C'est une stratégie assez ancienne. Hein. Je dis n'importe quoi, on me dit que je dis n'importe quoi. Comme ça, je peux aller à la télé ou à la radio dire « Oh mon Dieu, regardez, j'ai été censuré par les bien-pensants. » Comme on ne donne pas la parole aux bien-pensants en question, qu'on ne les écoute pas, et qu'il faut dire ce qui est, parler de méthodologie scientifique, c'est quand même aride à la radio ou à la téloche. Enfin, on se fait vite quand même, on se casse un petit peu les pieds. Et ben, du coup, le message passe. Et cette victimisation-là, elle marche très bien sur cette espèce de fond d'anti-intellectualisme, parce qu'il faut dire ce qui est, en réalité, on a affaire à des gens qui n'aiment pas avoir un rapport scientifique ou rationnel au monde, même s'ils aiment bien dire le contraire, en revanche.
Et oui, pas facile dans les médias de donner de la place à une parole complexe, de prendre le temps d'expliquer. La panique, c'est toujours plus vendeur que la tranquillité.
En fait, il y a un peu deux erreurs qu'on a tendance à faire quand on pense aux médias. La première erreur, c'est de penser que les médias se contentent de façon neutre d'aller chercher les informations importantes, de les hiérarchiser en fonction de ce qui est objectivement important, et puis de les présenter au public. Et qu'il n'y a pas de décision qui est prise, que le public consomme ce qui est intéressant, ne consomme pas ce qui n'est pas intéressant, et que c'est tout. C'est pas vrai, on le voit par exemple, ben je cite une enquête qui s'appelle La banlieue du 20h, où c'est un collègue qui a travaillé, il me semble que c'était à France 2, mais enfin, je ne veux pas m'avancer, sur la façon dont on construit le JT, et qui montre que ben, en fait, l'information c'est beaucoup des histoires stéréotypées. Pourquoi est-ce que c'est des histoires stéréotypées? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, et donc ben, n'ayant pas beaucoup de temps pour en parler, il faut dire aux gens une histoire qui leur parle déjà. Si vous voulez comprendre un truc aussi bête, aussi simple que un micro-conflit de voisinage autour, j'en sais rien, d'un droit de passage autour d'un chemin communal, le truc qu'on a autour de nous. Si vous vous mettez à vraiment travailler sur ça, à vraiment regarder tous les tenants et aboutissants pour produire une idée complète de la situation, on peut aller à l'infini. C'est des enjeux qui touchent énormément de choses, qui sont extrêmement complexes. On vit dans une société qui est très complexe. Complexe pas dans le sens où c'est compliqué, mais complexe dans le sens où il y a beaucoup de parties prenantes. Et démêler, décortiquer tout ça, ça prend beaucoup de temps. Si vous produisez un JT tous les soirs à 20h qui doit durer 25 minutes et que vous avez 37 secondes pour traiter d'un sujet, vous n'avez pas le temps de présenter ça. Il faut présenter aux gens une histoire qu'ils comprennent. L'effet divers, ça marche très bien là-dessus. Ça fait sensation. Il y a un gentil, un méchant, une situation choquante qui sort de l'ordinaire et on peut le présenter. Il y a une morale à la fin. Le gentil professeur a été censuré par les méchants étudiants. La gentille mère de famille a été agressée par un méchant immigré. Ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas non plus dire complètement que c'est faux. C'est une façon de présenter, de faire ce qu'on appelle en sciences sociales cadrer une histoire. Ensuite, l'autre erreur qu'on a tendance à faire, c'est de croire que tout ça, c'est une grande manipulation. Qu'il y a des gens qui sont aux manettes avec presque une théorie du complot, hein, qu'il y a des grands méchants qui décident de tout ce qu'on va penser, de tout ce qu'on va voir, de tout ce qu'on va entendre, de tout ce qui va nous intéresser et dissimuler le reste. C'est faux aussi, en réalité. Il y a des forces qui pèsent, bien sûr, sur la fabrique de l'information, mais ça ne veut pas dire que tout est entièrement coordonné par un manipulateur ou un grand marionnettiste malveillant qui aurait toutes les cartes en main. Il y a du social, en fait. Il y a de la dynamique, il y a de l'interaction, il y a des conflits. Il suffit de voir ce qui s'est passé quand la chaîne CNews a été créée. On a eu des journalistes qui ont démissionné en masse, un JT qui a tenu par des bouts de ficelle pendant un certain temps, et puis qui a commencé à se reconstruire et à gagner une certaine popularité en produisant un certain type d'information. Et ce type d'information, ben, c'est aussi ça qui compte, et c'est ça qui compte, à mon avis, dans la panique morale. C'est pour ça que je préfère parler de panique morale, parce qu'une panique morale, c'est un phénomène médiatique dans lequel on crée du scandale autour d'un malaise social en désignant des méchants précis, en montant en épingle des anecdotes ou des affaires pour créer une forme d'emballement. Mais cet emballement, il n'est pas créé de façon malveillante ou volontaire. C'est-à-dire, c'est un journaliste qui a entendu dire qu'il y avait une manif qui avait mal tourné dans telle fac. Et comme on a un discours qui est prêt à l'emploi pour dire, bah justement, on a toutes ces histoires de cancel culture, on a des intellectuels aussi qui s'en préoccupent, qui écrivent des bouquins là-dessus. Moi, c'est quelque chose que je rappelle à chaque fois. Je peux faire un tout petit retour sur mon expérience perso. Moi, on m'a contacté pour me dire, ben voilà, il se passe telle affaire, ce qui s'est arrivé quand Pape Ndiaye est arrivé au ministère de l'Éducation. Vous avez écrit un bouquin sur la question, est-ce que vous voulez venir nous en parler? Parce que ben il y a un pool en fait de gens qui écrivent des bouquins, qui ont des trucs à dire, et ça coûte moins cher en fait d'aller chercher ces gens que d'envoyer des journalistes enquêter pendant 6 mois sur un sujet. Il faut dire ce qui est. Donc on a ben voilà des gens, Pascal Bruckner, Brice Couturier, Mathieu Bock-Côté, Alain Finkielkraut et compagnie, qui ont toujours plus ou moins un bouquin à vendre et qui du coup ben sont contents de venir venir sur un plateau de télé pour présenter leurs analyses qui sont toujours plus ou moins les mêmes et qui remplissent en fait une grille de programme. Donc il n'y a rien de malveillant, il n'y a pas de complot là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des acteurs qui sont activistes. Bien sûr, il y en a. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont un rapport moral en fait à la politique, qui se disent, qui n'aiment pas se sentir mal à l'aise en fait, qui n'aiment pas qu'on leur dise des trucs qui les font se sentir mal. Ça fait se sentir mal quand on dit que ben voilà, les gens qui nous protègent, qui sont censés nous protéger, la police, et ben en fait il y a des gens qui le harcèlent sans raison, autre que leur couleur de peau. On préfère se dire que ces gens l'ont mérité. Quand on nous apprend qu'une collègue féminine, une collègue femme, a dans sa carrière aura un salaire moins important que le nôtre pour des raisons qui sont ben parce qu'elle est née comme ça, c'est pas juste, ça fait se sentir mal. On préfère se dire que non, il doit y avoir quelque chose qui est mérité là-dedans. Quand on nous dit que des personnes LGBT ont pas le droit, des personnes homo ont pas le droit de se marier pour pas d'autre raison que le mariage c'est un truc qui vient de l'église au départ et l'église a décidé que les homosexuels c'était moins bien que les hétérosexuels, bah on se dit, soit on se sent super mal à l'aise, soit on se sent vraiment en colère de se dire qu'on vit dans un monde qui est vraiment véritablement injuste, ce qui est le cas, ou alors on essaye de mettre la tête dans le sable. Et c'est une bonne manière de mettre la tête dans le sable, tirer sur le messager. En fait, et c'est vraiment ça. Et moi, je pense que ça va pas plus loin que ça. La raison pour laquelle les anti-wokistes sont aussi obsédés par l'idée de la repentance, c'est qu'ils avouent leur propre rapport à la question. Ils se sentent mal à l'aise. Cette idée de repentance, elle vient de personnes qui sont blanches en Europe, qui ont pensé vivre dans un monde juste à un moment et qui se sont rendus compte que non, et qui n'ont pas été capables, qui n'ont pas réussi à dire, ben du coup, faut le changer ce monde. Qui se sont contentés de dire, ben non, les gens qui disent ça sont des menteurs.
De retour après l'enfer, je pointe le ciel. J'ai rangé toutes mes affaires de l'ordre émotionnel. J'ai affiché mon visage sur tout le mur et j'ai quitté ma cage. J'ai plus besoin d'armure. J'illumine, c'est ma belle aventure. Martin, on a besoin d'armure.
Petite blanche dans du poil sous les bras.
Si vous vous sentez mal à l'aise, posez-vous des questions. Est-ce que vous avez envie de changer le monde pour aller vers un monde meilleur pour chacune et pour chacun? Ou est-ce que vous préférez faire Calimero ou un moins et regretter le temps des cathédrales et celui du mariage arrangé? Et nous, qui ne sommes pas réac, où est-ce qu'on en est au juste? Est-ce qu'on regrette le temps du Front populaire? Est-ce qu'on n'aurait pas perdu la bataille des idées? Est-ce qu'on continue de se fouetter avec des épis de blé bio, bien sûr? Ou est-ce qu'on redresse la tête?
Un truc que j'aime pas à gauche. Surtout pour moi qui viens de la gauche en ligne, c'est-à-dire moi je passe beaucoup de temps sur Twitter, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. À côté de ça, je milite dans une organisation politique. J'ai fait un peu de syndicalisme quand j'en ai eu l'occasion. Mais mon engagement principal, entre guillemets, c'est dans la gauche en ligne, puis dans le monde des idées, entre guillemets, c'est qu'on se bat souvent la coulpe. On a tendance à voir beaucoup, à se dire, voilà, tout est de notre faute, on est nul, on vaut rien, on a échoué. Enfin, un mouvement, ça se construit, en fait, et ça se construit sur longtemps. On a édité aux éditions d'Alternatives Libertaires un petit bouquin qui s'appelle « La stratégie de l'anarchisme latino-américain », qui est un entretien entre deux militants anarchistes au Brésil et en Uruguay. Et il s'avère que c'est un retour en fait d'expérience sur la Fédération anarchiste uruguayenne. Et donc, le gars de la Fédération anarchiste uruguayenne, qui s'appelle Cachoso, il le dit d'une façon que je trouve vraiment, vraiment très intéressante. Il y a des périodes où le mouvement social progresse, où il trouve des alliés, où il se renforce, où il obtient des trucs. Il y a des périodes où il tient ses appuis, où il tient ce qu'il a, et où il essaye de ne pas reculer. Et puis, il y a des périodes de recul où il faut apprendre à se cacher, regrouper ses forces, à se préparer pour quand ça sera possible d'agir de nouveau, etc. Alors, on n'est pas en Uruguay sous la dictature. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais on connaît, à mon avis, depuis quelques années, une période de très forte répression du mouvement social. J'ai fait mes premières manifs personnellement au moment du CPE, qui était une période qui est la dernière fois où on a véritablement réussi à mettre en échec de façon définitive un gouvernement sur une réforme à ma connaissance. Et ben moi, mes premières expériences de manifestation, c'était des, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de répression. On sortait de la révolte des banlieues, où les gens avaient été victimes d'une répression extrêmement forte. Mais enfin, les manifestations étaient encore assez joyeuses, on avait des lycéens, des lycéennes qui allaient manifester sans trop s'inquiéter. Aujourd'hui, je ne connais pas une personne de la génération de militants et de militantes qui est venue après moi qui n'a pas pris des gaz lacrymaux. Moi-même, j'ai commencé à prendre des gaz lacrymaux beaucoup plus tard. Donc, il y a ce phénomène-là. Il y a aussi le fait de savoir quel est notre échec réel. Dans les années 80-90, quand je discute avec des gens qui étaient militants et militantes vraiment à l'extrême-gauche, entre guillemets, à cette époque-là, c'était très difficile de parler de lutte des classes, c'était très difficile de faire passer un message révolutionnaire. On avait des gens qui se demandaient vraiment ce qui allait se passer et qui s'inquiétaient, en fait. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et aujourd'hui, on a ce phénomène qui consiste... Il y a une façon de le formuler un peu ironique que je trouve qui est intéressante, c'est de dire une réussite, il y a 15-20 ans, ça aurait été waouh, trop super, on est 6 à cette réunion du repère des amis de la Bastille, j'y suis. Et aujourd'hui, un échec, c'est oh mon Dieu, on a raté le deuxième tour de la présidentielle à seulement X voix près. En fait, la gauche a beaucoup plus réussi que ce qu'on croit. Il y a quelques années, les réflexions qui se faisaient au sein de la gauche sur est-ce qu'on doit dire racisé ou pas, ou machin, c'était des trucs qui réunissaient des toutes petites conférences avec très peu de gens. La personne qui a forgé ou généralisé le mot de racisé en France, Colette Guillaumin, c'est une sociologue qui a été très peu connue de son vivant. Aujourd'hui, on parle de ces concepts dans les grands médias. Donc ça, c'est quelque chose, moi, que je regarde avec optimisme. Ensuite, oui, c'est vrai qu'on a des forces qui sont considérables face à nous, qui ont de l'argent, qui ont des réseaux, qui ont machin. Donc il y a plein de choses à faire. Et c'est là, malheureusement, que moi, je le dis à chaque fois, si je savais exactement la stratégie à suivre, je serais déjà millionnaire parce que je l'aurais déjà donné. Je ne sais pas. Donc il faut faire feu de tout bois, à mon avis. On voit plein d'initiatives qui se développent, aussi bien des mouvements de rue que des mouvements associatifs, des réseaux, des espaces de discussion, des contre-médias ou des interventions dans les médias mainstream, etc. Et moi, je regarde ça d'un œil qui est toujours très positif et admiratif, parce que je me dis, on verra bien, il y a un truc qui va finir par prendre, en fait.
C'est positif tout ça. Moi, j'ai envie de suivre le cheminement d'Alex Maudo, d'aller de l'avant, de me dire que les peurs des réacs ne doivent pas nous empêcher de faire avancer la société, qu'on n'est pas obligé de répondre à toutes leurs bêtises. Qu'on n'est pas obligé de culpabiliser parce que les réacs existent. Ce n'est pas notre faute. Et la majorité de la population se fout bien, d'ailleurs, des idées de Bruckner, Couturier ou Zemmour. Ils sont dans l'exagération et la panique, restons dans la rationalité et la réflexion. Si les wokistes sont une menace pour leur ordre social rêvé, tant mieux. Dans son livre, Alex Maudo raconte qu'aux États-Unis, les conservateurs flippent tellement qu'ils demandent des affirmative action à leur avantage au prétexte de diversité idéologique. Sous-entendu, les réacs seraient sous-représentés, blabla, ouin ouin, et donc il faudrait mettre en place des politiques spécifiques pour défendre cette minorité menacée. Plus c'est énorme, plus ça marche, ou presque. Mais où veulent-ils en venir aujourd'hui, les anti-woke ? Est-ce qu'ils cherchent juste à exister, ou est-ce que cette panique cache autre chose ?
Quand je suis né, moi je suis né en 91, 91 c'est, ou 90, je ne sais plus, c'est l'année du politiquement correct. C'est l'année où Newsweek publie sa grande une sur le politiquement correct dans les facs. C'était déjà exactement le même discours qu'aujourd'hui. C'était déjà exactement les mêmes affaires. C'était, ah mon Dieu, il y a sur le campus de telle fac 50 étudiants qui ont fait une manif pour dire qu'ils avaient envie qu'il y ait des noirs dans le cursus de lettres et du coup, ça veut dire qu'on détruit la civilisation. C'était déjà, ah mon Dieu, dans telle fac, c'est un exemple que j'aime bien citer, un gars qui s'appelle Peter Thiel qui est maintenant... un grand milliardaire qui a des contrats avec l'État aux États-Unis et qui finance beaucoup d'initiatives à l'extrême droite. C'est lui qui a fait la jonction entre ce qu'on appelle l'alt-right et Donald Trump, qui écrivait à l'époque un bouquin pour dire « Regardez, sur tel campus aux États-Unis, les étudiants font un boycott du raisin parce qu'ils disent que le raisin, c'est raciste. » Et quand on regarde, en fait, c'était pas du tout ça qui se passait. C'était qu'en fait, il y avait eu un très gros mouvement de grève mené par un syndicat agricole de manutentionnaires en fait en agriculture, des petites mains qui faisaient la récolte du raisin et qui étaient des gens qu'on payait mal, qu'on faisait venir de l'autre côté de la frontière, souvent du Mexique, qui étaient forcés de travailler avec des produits qui les rendaient malades, qui étaient hébergés dans des mauvaises conditions, qui étaient dans des conditions de travail qui étaient pitoyables et qui se sont mis en grève et qui se sont tournés d'abord vers une certaine entreprise qui produisait essentiellement du raisin et qui ont demandé par solidarité que les gens boycottent aussi leur entreprise, comme ça se fait en fait dans les mouvements de grève. Et ce boycott a été organisé par les étudiants en solidarité avec ça et ils ont gagné. Et en fait, Peter Thiel arrive après la bataille en disant « Regardez, ces abrutis d'étudiants ont dit que le raisin c'était raciste, ha ha ha, ho ho ho, ils sont ridicules ». Mais ça, je veux dire, les ficelles sont tellement énormes qu'on se demande comment c'est passé, en fait. C'est-à-dire que oui, bien sûr, c'est beaucoup plus facile de dire ça que de dire « Ah, les travailleurs qui trouvent qu'ils ont été mal payés et maltraités désirent avoir des meilleures conditions de travail ». Ça, on l'a aujourd'hui en France. On a exactement ce type de situation en France. On a eu un mouvement de militantisme antiraciste mondial en 2020. Parce qu'on a dit que c'était un truc d'Américain, mais ça se passait aussi, par exemple, au Nigeria. On n'a pas parlé du fait que pendant les grandes manifestations Black Lives Matter aux États-Unis, il y avait des manifestations contre les violences policières au Nigeria, qui ont été passées sous le tapis, parce que ça répondait... Enfin, je ne sais pas si c'était parce que ça ne répondait pas au discours selon lequel c'était un truc de petits blancs qui se sentaient mal à l'aise, mais toujours est-il qu'on en a beaucoup moins parlé. Ça s'est passé aussi à travers le monde, en fait. On a eu des manifestations similaires en France autour de la question de la police, autour de la question de la ville, du fait que on a des formes de qui sont pas aussi radicales qu'aux États-Unis, mais des formes de ségrégation urbaine, autour de la question des infrastructures, autour de la question de l'accès au logement, au travail, à la santé, à tout ce que tu veux. Et ça, ça a été rabattu sur quoi ? Ça a été rabattu sur est-ce qu'on va abattre la statue de Colbert ou pas ? Qui est une question que certaines personnes discutent, et on peut en discuter calmement, il n'y a pas de problème, mais qui n'était pas le centre du sujet. Ce que je voulais dire en prenant cette longue périphrase, enfin cette longue anecdote, c'est de dire déjà ce débat il existe depuis des plombes. Ensuite, il se renouvelle régulièrement. Après le politiquement correct, ça a été la bien-pensance ou le droit de l'homisme. Il y a eu une époque où c'était la culture adversariale des intellectuels. C'était dans les années 70. Ça a été le gauchisme culturel. Ça a été un des bouquins que je cite des manifestations qui ont eu lieu aux États-Unis contre l'éthique situationnelle. Ça a été le postmodernisme, l'indigénisme, le racialisme, le décolonialisme, le féminisme intersectionnel, les activistes LGBT, et maintenant c'est les transactivistes. Et puis, on peut continuer la liste. Aujourd'hui, c'est le wokisme, ça a marché parce que ça a l'air d'être une étiquette qui prend plus ou moins tout. Mais quand on regarde ce que font les gens qui, il y a encore un an, nous expliquaient que le wokisme c'était le plus grave problème au monde, aujourd'hui c'est l'idéologie trans, ce qu'ils appellent l'idéologie du genre. Et demain, ce sera autre chose, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont une pensée à obsolescence programmée, qui ont besoin constamment de réinventer des nouveaux termes pour dire la même chose, pour continuer à inquiéter le chaland et pour continuer à être présent dans le débat public. Donc oui, moi mon bouquin il s'appelle La Panique Woke et dans 10 ans j'aurai écrit un bouquin qui sera appelé autrement. C'est pas ça le sujet. Le sujet c'est de comprendre comment fonctionnent les réactionnaires, comment les réactionnaires essayent constamment de créer un sentiment de victimisation, constamment d'entretenir un sentiment que moi j'appelle obsidional, c'est-à-dire un sentiment de mise sous siège, de dire attention, votre civilisation est sur le point de s'effondrer sur tout et n'importe quoi. C'est quelque chose que je remarque, moi, c'est que il n'y a pas chez ces gens de moyen problème. Il y a soit des trucs qui ne sont pas des problèmes, soit c'est la fin du monde. C'est pour ça que je parle du yaourt de l'apocalypse au début du bouquin, avec cette sénatrice Valérie Boyer, qui dit que le fait qu'il y ait eu une croix qui a été retirée d'un yaourt, ça marque la fin de la civilisation chrétienne, occidentale, européenne, française, machin. Non, c'est une croix sur un yaourt. Ça, tu peux t'énerver de ça, moi j'ai des problèmes un petit peu plus graves dans la vie, je pense, mais tout est la fin du monde. On ne peut pas avoir un truc qui n'est pas le déclin de l'Occident et on va tous mourir. Moi, je pense qu'il faut se moquer de ces gens, déjà. Il faut se rendre compte qu'ils sont ridicules. Il faut se rendre compte que quand on a... Moi, je me retrouve devant la télé à regarder des gens qui sont en train de discuter du fait qu'un emoji avec un homme enceint dessus, ça veut dire que la civilisation va s'effondrer. Je me demande, est-ce que c'est vraiment... Il y a un sentiment un peu de déréalisation qui peut avoir lieu, quoi. C'est qu'est-ce qui est en train de se passer? On a des députés qui sont en train de discuter de ça, quoi. Enfin, ok. Mais ils vont continuer, parce que c'est leur seul rapport au monde. Parce que sinon, ils vont vous proposer quoi? Ils vont vous dire, bah nous on pense que vous devez avoir des salaires plus bas, moins de ressources, que nous on aille mieux, que vous alliez moins bien, que votre bouffe soit polluée, que l'air que vous respiriez soit blindé de particules toxiques et que vos enfants meurent plus jeunes que vous parce qu'ils auront vécu dans un monde de merde. Ben concrètement, c'est non. Pour finir sur une petite anecdote, parce que je trouve ça drôle, il y a un député de droite qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La culture nous sauvera ». Et donc, il a été invité à France Inter pour présenter son bouquin. C'est un bouquin sur la cancel culture, sur les statues, sur tous les machins qui étaient populaires à cette époque. C'est vraiment une anecdote, c'est représentatif de rien, mais ça m'a beaucoup fait rire à l'époque. Parce qu'il finissait donc sa longue complainte sur le fait qu'on n'avait plus rien le droit de dire, qu'on n'avait plus rien le droit de faire, que de toute façon tout était interdit de nos jours, machin. Et il terminait en disant « Ah, et on réfléchit aussi sur comment est-ce qu'on pourrait passer vers un système de retraite par capitalisation. » C'est-à-dire pour privatiser le système de retraite. Et ça, c'était en passant. C'était « Ah, au fait, à propos, vous n'allez pas avoir de retraite. » Et je trouve ça vraiment... Enfin, c'est presque le subconscient qui remonte à la surface, là.
J'ai retrouvé l'invité de la matinale d'Inter dont parle Alex Mahoudeau. C'est David Lisnard, le maire LR de Cannes, très à droite, très réac et qui prône en gros effectivement le « chacun pour sa gueule ». Et son interview est très symptomatique des anti-wokistes. Il est invité mais se plaint qu'on ne lui donne pas la parole. Tout comme ses copains réac, il se noie dans son nombrilisme. Il croit briser des tabous, il pense être l'espèce menacée qui pourtant sauvera le monde, etc. Bref, ne l'écoutez pas, moi je l'ai écouté pour l'émission mais c'est pénible à écouter. Alors attention, maintenant, trigger warning, comme on dit, c'est une expression pour prévenir qu'un sujet sensible va être abordé et que ça peut faire ressurgir des traumas chez certaines personnes. Warning, donc, je préfère vous le dire, on va parler de Manuel Valls. Ça peut être très violent pour des personnes de gauche.
En ce moment, il y a un faux débat à gauche. Je dis que c'est un faux débat parce que, je vais l'éclaircir très rapidement, on a une partie de la gauche qui reproche à une autre partie de la gauche de ne plus parler de lutte des classes. On va avoir des personnes comme par exemple Manuel Valls qui vont dire « la gauche radicale a remplacé la lutte des classes par la lutte des races ». Alors moi je veux bien. Mais concrètement, Manuel Valls ne veut pas qu'on parle de lutte des classes. Si Manuel Valls voulait qu'on parle de lutte des classes, lui et moi on serait d'accord sur un truc, c'est-à-dire on pourrait parler de comment faire pour départir le capital d'une partie de sa richesse, pour renforcer, pour créer un pouvoir populaire entre les mains des travailleurs, pour qu'ils puissent petit à petit prendre le contrôle sur l'outil de production, et ainsi aller vers une société socialiste. Mais c'est pas ça qu'il veut. Quand il dit « on a remplacé la lutte des classes par la lutte des races », il veut dire quoi en réalité? Il veut dire « on a remplacé l'image d'un prolétariat diversifié ». Donc on a commencé à parler de prolétariat comme touchant, déjà prolétariat il aimerait pas le mot, mais mettons un peuple comme touchant des personnes qui sont musulmanes, qui sont noires, qui sont homosexuelles, qui sont des femmes, qui sont tout ce que vous voulez. On a substitué ce truc-là au fait de parler exclusivement d'un prolétariat compris dans ce que moi j'appellerais une esthétique de classe, c'est-à-dire un mec avec une casquette sur la tête, qui aime bien boire du Ricard, qui prend l'apéro, qui mange du saucisson et qui trouve qu'il y a trop d'arabes. En fait, ça c'est pas la classe, ça c'est une idée déjà super insultante de ce qu'est le peuple. Parce que le peuple, au quotidien, il est beaucoup plus diversifié que ça. Et ensuite... Il n'y a pas d'opposition entre ces deux groupes, à part le fait que la deuxième personne que j'ai présentée trouve qu'il y a trop d'arabes, ils sont touchés par les mêmes choses. Donc là-dessus, ça me permet de clarifier ce que moi je veux dire quand je parle de lutte des classes, je parle au pluriel de classes. C'est-à-dire, il y a les classes sociales, les classes économiques, et qui sont effectivement un sujet qui a été difficile, à cause de la gauche Manuel Valls précisément, de mettre en avant dans le débat public. Le fait est que la division du pouvoir dans la société reste entre les possédants et ceux qui ne possèdent pas. Et que la question de que va faire la classe moyenne dans la lutte entre ces deux entités-là, elle reste tout à fait vitale et présente. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais il y a d'autres classes. Il y a des classes de sexe. Il y a des classes de genre. il y a des classes racisées. Il y a des classes aussi en termes de sexualité. C'est-à-dire on a des gens à qui on retire des droits au nom du fait de préserver le sentiment de normalité des autres. J'ai parlé tout à l'heure de la question du mariage homosexuel, c'était typiquement un combat comme ça. Comment est-ce qu'on a gagné ce combat du mariage homosexuel en 2013? On ne l'a pas gagné en disant « Ah là là, la manif pour tous, c'est vrai que la civilisation, machin. » On leur a dit « Non, vous ne perdez rien à ça, on va vous écouter parler, et puis après on va le faire quand même. » Et c'est ce qu'on a, on a été offensif. On n'a pas tergiversé, on n'a pas une partie de la gauche qui a dit « Ouais, mais quand même, est-ce qu'on pense aux inquiétudes de machin ?» Non, on a été offensif. Et c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est-à-dire quand la droite commence à dire ah là là, oh mon Dieu, le racisme machin, ce qu'il faut faire, c'est pas essayer de les ménager. De toute façon, ils penseront toujours qu'on va trop loin. Ce qu'il faut faire, c'est y aller vraiment. Mais pour y aller vraiment, il faut savoir pourquoi on y va. C'est-à-dire il faut sortir d'une vision du racisme, par exemple, qui est globalement le racisme, j'aime pas ça. Mais pour ça, il faut discuter avec les gens qui en parlent, avec les gens qui sont aussi sur le terrain et qui animent des luttes sociales. C'est-à-dire là, il y a un travail d'interorganisation à faire. Et ce travail, il n'est pas entièrement à inventer. En réalité, des groupes comme le PCF, la CGT, la France Insoumise, Sud Solidaire, les associations de sans-papiers, etc., sont des organisations qui font ce travail, déjà, de longue date. Donc il faut qu'elles le continuent. Et ce qui est en fait parasitaire dans cette histoire, c'est un tout petit groupe, en fait, un groupuscule minuscule de gens qui occupent tout l'espace en disant « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Et là-dessus, il faut, à mon avis, qu'on ait le courage de nos ambitions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut en fait, pourquoi on est de gauche. Moi, je n'ai pas de problème à revendiquer cette idéologie-là, ce bord-là, et je sais que je suis de gauche parce que je veux, et c'est ce que je cite à la fin de la conclusion de mon bouquin, je veux une société libre, je veux une société juste. Depuis, j'ai rajouté, je veux une société émancipée. Je sais comment obtenir ces trucs-là. Je sais qu'il y a un certain nombre de choses qui vont devoir changer. Non pas parce que j'ai envie de tout déconstruire au nom d'un mythe du progrès ou d'une religion du progrès ou ce genre de conneries, mais parce que, oui, quand, pour reprendre l'exemple encore une fois du racisme, ben, quand quelqu'un est contrôlé au nom de son faciès, c'est d'abord lui qui souffre et notre humanité partagée. Il n'y a pas d'opposition entre l'universalisme et ce que certains appellent l'intersectionnalité ou l'indigénisme. Ce qui atteint un de mes frères humains m'atteint moi aussi. Et ce sentiment de solidarité, il a au contraire été effacé par des gens qui essayent de nous faire croire que non mais parce qu'on l'oppresse, toi on te protège. C'est faux, on a les mêmes ennemis. Ça ne veut pas dire qu'on va tous être copains du jour au lendemain. Il y a des choses sur lesquelles on ne va pas se comprendre. Mais cette incompréhension, on la dépasse en travaillant ensemble. Donc moi, je pense qu'on a le droit d'être optimiste, on a le droit d'être combatif, on a le droit d'arrêter de se complaire dans cette espèce de sentiment d'échec. Il y a une gauche qui aime perdre, il y a une gauche qui pense qu'il vaut mieux diriger un parti socialiste moribond qui ne réussit pas à faire passer ses réformes, ou quand il en fait passer, sont des réformes de droite, et qui envoie les flics taper sur des manifestants en s'excusant presque d'avoir osé s'appeler gauche un jour. Et cette gauche qui aime perdre, eh ben, elle aime pas qu'on a... C'est elle, effectivement, qui est allée flatter les soi-disant anti-wokistes.
J'aime bien ce discours optimiste, cette idée que c'est avec encore plus de solidarité qu'on y arrivera. J'aurais pu l'arrêter là, mais Alex Mahoudo avait envie d'insister encore un peu, de nous aider à sentir l'espoir face au désespoir des anti-wokistes.
Il y a une phrase qui me vient d'un des types qui ironiquement a théorisé la cancel culture, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le réalisme capitaliste, et dans lequel il dit justement, il reprend en fait ce dicton qu'on a à gauche, qui est « c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ». Eh ben on a un droit d'imagination en fait. On a le droit d'imaginer ce monde juste, ce monde meilleur. On a le droit de penser, parce que c'est le cas en fait, que l'existant n'est pas la seule chose qui pourra être réelle. Et c'est ça au fond que les anti-wokistes veulent pas qu'on fasse. Ils veulent pas qu'on innove dans nos façons de réfléchir. Ils veulent pas qu'on crée des mouvements qui créent des alternatives ou des ouvroirs politiques. Pourquoi ? Mais parce que ils veulent qu'on pense que l'existant c'est le summum de ce qu'on peut espérer. Et toute l'histoire du mouvement social, c'est des gens qui ont dit que ça, c'était faux. Ursula Le Guin a dit « Le capitalisme, nous vivons sous le règne du capitalisme et il nous semble aujourd'hui indépassable, mais c'était également le cas du droit divin des rois. » Et je pense que cette phrase, elle est très importante à garder en tête.
Le gars qui a écrit « Le réalisme capitaliste », sous-titré « N'y a-t-il aucune alternative ?», c'est l'anglais Mark Fisher, écrivain et philosophe qui s'est suicidé en 2017. Il avait 48 ans. Comme l'écrit Alex Mahoudeau à la fin de son livre, plutôt qu'une attitude défensive, il semble plus que jamais urgent de proposer une politique offensive de lutte des classes, ancrée dans les préoccupations et la vie matérielle des gens, et de ne pas ignorer le fait que la domination existe réellement et selon des axes multiples. Et avant de nous quitter et de retourner lutter pour une politique émancipatrice, écoutons ce qu'Alex Mahoudeau